Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour.
Bonjour.
Je sais pas si on est en avance.
Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
Ressemblez à mes parents.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Françoise.
T'as l'impression que ta vie, t'as eu de la chance tout le temps?
J'ai pas eu que ça. Il y a eu des moments difficiles aussi, puis j'ai affronté, j'ai fait face. Je me souviens des capacités de rebondir que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai eu beaucoup de chance, effectivement.
Alors, est-ce que vous voulez du jus de pomme ou bien un petit thé du yogi ou machin comme ça?
Françoise est un petit bout de mamie qui vit dans son pavillon de banlieue tout près de la ligne du RER. Elle nous a servi un thé et de la mangue séchée par un bel après-midi de printemps. Doit-elle son énergie au cours de Douyin qu'elle donne toutes les semaines? Ce qui est certain, c'est que sa vie de femme a été marquée par la chance.
Merci.
Enfin ça, c'est ce qu'elle dit.
Est-ce que Françoise, tu peux nous parler un peu de toi?
Ah oui, avec plaisir, j'ai déjà commencé. J'ai dit ça. Alors, je suis née à Paris pendant la guerre, pendant l'occupation en 1941. Alors, j'ai aucun souvenir de ma période d'occupation. Mes parents s'en sont occupés, moi j'ai vécu comme ça. Ils sont vraiment bien occupés de moi, je crois, tous les deux. Alors, mon père était dans la police des étrangers, parce qu'il parlait 5 langues. Et donc, il était un peu interprète pour différentes choses.
D'accord. Et ta maman, elle faisait quoi?
Elle était prof de maths, comme moi.
Vous viviez à Paris, donc avec tes parents, dans un appartement?
Oui, c'était un quatrième étage, deux pièces. Ça, c'était pas très, très grand. Mais enfin, bon, il y avait ce qu'il fallait. Enfin, il y avait la chambre des parents. Et puis, nous, on dormait, ma soeur et moi, dans le séjour. Et puis, il y avait une petite salle de bain, puis une petite cuisine à boyaux, comme ça. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait même la place au bout du couloir, on met des souris blanches. Ah, c'était bien, les chambres. Mon papa nous y promenait. J'avais un papa qui était peut-être en avance sur son temps. Il s'occupait de nous, les enfants. J'ai beaucoup été entourée par mes parents dans nos petites deux pièces et pendant la guerre. Bon, je n'ai pas souvenir d'avoir pâti de quelque chose. Les bombardements, oui, je sais qu'il y en a eu, mais bon, les parents s'occupaient. En 1944, quand ça commençait à devenir difficile de trouver à manger à Paris, la nounou qui s'occupait de nous est partie avec nous dans la grande province. Et puis, s'est occupé de nous, mais manque de bol, c'était juste à côté de Radur-sur-Glane. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est là qu'il y a eu plein de gens brûlés dans une église, vraiment l'Holocauste. Ben, nous, on était juste à côté. Ils avaient choisi pour nous protéger, mais il ne s'est rien passé. Il y a juste une fois, on jouait sur une bâche que mon père avait rapportée il avait été à Berlin avant la guerre et tout ça. Et cette bâche, c'était une bâche allemande, ça se voyait. Et il y a des soldats d'occupation qui sont passés, qui nous ont vu, nos petites gamines, 3 ans, 1 an, jouer sur la bâche. J'ai dit à nous ça. Ils l'ont pris. Puis il n'y a rien eu. On ne nous a pas emmenés à l'église, nous sommes avec les autres. Il y a un jour qui était, à mon avis, la charnière. Je pense que ça doit être le jour de l'armistice ou quelque chose comme ça. Il y avait un jour où tout le monde était très joyeux. Je sentais qu'il y avait de la gaieté dans l'air et il m'est resté quelque chose de ça. Donc dans ma tête, j'imagine que c'est ça qui a dû se passer. Alors dans l'après-guerre ensuite, quand j'ai eu 9 ans, on a déménagé, on a quitté l'appartement de pièces au quatrième étage, on est allé à Clamart, où mon grand-père avait fait construire une maison. J'y suis allée souvent ensuite, blottie entre des grands pavillons à côté, c'était un tout petit machin, mais il y avait quand même vraiment du confort par rapport à ce que nous on a connu. Puis il y avait un grand bout de jardin et c'était tout près d'un bois, un changement de vie formidable. Et puis il y avait un pommier reine des rainettes, avec 3 belles branches qui montaient comme ça en trépied. Et on pouvait grimper en haut et puis lire tranquillement. J'en ai pas, c'était bien. Je me disais quand le jour commençait à pointer par le, par la fenêtre. Ah, les parents ne savaient pas forcément que je lisais aussitôt que ça, mais c'est bien lire. J'ai lu énormément. J'ai plus beaucoup de temps maintenant, mais j'ai toujours beaucoup de bouquins. Et puis des fois, j'ouvre une page, enfin, c'est juste la page que j'ai besoin de lire à ce moment-là pour donner un tuyau à quelqu'un. Mais à l'époque, oui, bah, je lisais tout.
Et l'école, c'était comment? T'as des souvenirs de l'école?
Ah oui, 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 j'ai eu la chance, j'étais une bonne élève, oui, facilement. Ben, ça tenait un peu, il faut être que maman faisait très attention, elle était très directive, un peu autoritaire, mais ça avait ses bons côtés, c'est-à-dire que bon, ben, c'était facile. Quoi. J'ai appris à lire avant d'entrer à l'école, avec elle, la méthode globale, et puis je lisais avec bonheur très vite. À la fin de l'école primaire, on faisait le certificat d'études pour commencer à travailler à 14 ans, ou bien avant, à 11 ans, on passait le concours d'entrée en 6e. On avait le droit de mettre des pantalons pendant l'hiver, mais seulement entre novembre et mars, et puis il fallait mettre une jupe dessus quand même. On n'avait pas le droit de mettre un pantalon sans jupe dessus, c'est pas convenable pour une jeune fille. C'était une école que de filles, un lycée que de filles. Et toute ma scolarité, c'était comme ça, parce qu'après le bac, je suis entrée en prépa, et en prépa, c'était une prépa de filles à Fénelon. Après la prépa, je suis entrée à Sèvres. On avait des cours à l'ENS, mais on suivait aussi des cours à la fac. Et à la fac, là, on découvrait qu'il y avait des hommes aussi à l'extérieur. Je vais juste dire que je ne suis pas disponible. Allô Catherine, je sais très bien si tu viens pas parce qu'en ce moment je suis occupée avec deux jeunes femmes qui viennent m'interviewer sur ma vie. Et ça c'est passionnant et je ne veux pas les faire attendre. Donc je ne m'attarde pas. Je ne veux pas faire attendre mes copines là. Au revoir Catherine.
Entendu, au revoir, bientôt.
J'avais hésité entre les maths et les langues. Mon père il parlait beaucoup de langues, il m'avait chanté des chansons russes, c'était beau. Puis la langue russe elle était belle. Enfin bref, j'ai d'abord pensé, quand j'étais au lycée, à prendre non pas le bac mathélème, mais le bac littéraire. Je ne mets pas les maths en première. Même si ma mère était prof de maths, la dame qui disait ça, je ne comprenais rien à ce qu'elle racontait. Donc je ne mets pas les maths en première. Mais quand tu peux le faire, tu as des bonnes notes, tu peux le faire et ça te laissera choisir ensuite. Bon, alors je fais mathélème. Et là, la prof, elle était géniale. Les maths, elle mangeait comme d'un bon gâteau. Oh, ça, c'est un joli problème. Elle salivait son joli problème. Et puis, vous verrez l'année prochaine que, ah, bah non, si je m'inscris en lettres. Alors, en cours d'année, j'étais inscrite en lettres à Fénelon, en lettres sup, puis je leur ai dit, ben non, mettez-moi plutôt en maths sup. Mais j'avais quand même un secret pour le russe, alors pendant que j'étais en maths sup, j'ai demandé un petit aménagement pour pouvoir aller au cours de russe, qui était à côté, à l'école de langues orientales. La salle était bondée, parce que le russe, ça devait être ma truc d'avenir à cette époque-là. Je glissais un peu dans le couloir, puis j'entendais la voix du prof. Et puis, ben, j'ai quand même passé le diplôme au bout de 3 ans. Pour la dernière année, c'est, je venais d'avoir mon diplôme, et puis j'apprends qu'il y a une exposition française à Moscou et qu'ils cherchent des interprètes. Ben, j'avais le diplôme, je pouvais. Alors j'ai postulé, j'ai été retenue, parce qu'en plus j'avais une culture scientifique, ça m'intéressait beaucoup. Je suis partie là-bas pour un mois à Moscou. Je suis montée en avion pour la première fois. Après mes 3 heures d'avion, il fallait que je rassure ma maman, parce qu'elle avait plein de qualités. Ma mère m'avait été spécialement inquiète quand sa progéniture n'était pas sous ses ailes. Et prendre l'avion pour la première fois, tu nous enverrais un télégramme. Et bon, alors je laisse mes bagages avec le groupe, des interprètes là, et puis je vais chercher un truc pour envoyer le télégramme, j'envoie mon télégramme, je reviens. Il n'y a plus le groupe, il n'y a plus mes bagages. J'ai passé 48 heures à faire donner des coups de téléphone par tous les administratifs que je pouvais à l'hôtel, etc., pour retrouver mes bagages. Donc mon uniforme d'interprète que je devais mettre à l'exposition, donc, etc. Donc j'en ai retenu que rassurer les parents, c'est pas toujours une bonne idée. Alors on travaillait 6 heures tous les jours, soit le matin 9h à 3h, soit 3h à 9h le soir. Mais un jour, on a cumulé, on s'est débrouillé pour pouvoir partir quand même une journée à Leningrad. Alors, train de nuit, Leningrad, train de nuit, et on a recommencé le lendemain. Et donc moi, j'ai eu beaucoup de chance au niveau professionnel. Au bout d'un moment, j'ai atterri à Orsay, et à la fac. Dans les débuts de la construction d'Orsay, il y a encore de la boue et des travaux. Et j'étais assistante. Et puis au bout d'un moment, on m'a demandé si je voulais bien passer maître assistante. Mais je n'avais rien à faire, aucune démarche. Parce qu'ils avaient besoin de ma place d'assistante pour mettre quelqu'un qui ne pouvait pas être directement maître assistant. Mais moi, j'avais ce qu'il fallait. Donc j'ai même pas eu à me démener pour demander ma promotion. Alors par contre, après, pour passer au cran au-dessus, si j'avais voulu être prof de fac, ça c'est un... Prof, c'est un grade au-dessus de maître de conf. Et là, il aurait fallu que je fasse une thèse. Et puis, en fait, je n'ai pas fait de thèse parce que j'étais très occupée. J'avais accepté de m'occuper d'une bibliothèque de maths. Ça m'a passionnée. Une grande bibliothèque. Enfin, il y a des médias qui l'ont fréquentée. Enfin, je ne regrette pas du tout cet investissement. Mais du coup, ben, je n'avais pas le temps de faire une thèse. Je n'étais pas passionnée par ce qui se passait dans la thèse. Et ça m'intéressait beaucoup plus de rencontrer des gens, d'animer une petite équipe avec qui je m'entendais bien. Et là, j'enseignais les maths. Et j'aime beaucoup enseigner. Alors les maths, bon, c'était les maths, ça aurait pu être les langues, ça aurait pu être, c'était pas les maths qui étaient, j'en fais plus pratiquement depuis que je suis à la retraite, mais c'était le contact avec les étudiants, puis voir la petite lumière qui s'allume, la petite étincelle, quand ça y est, ils ont compris, ça j'aime bien.
Françoise parle vite, elle nous accroche à son récit avec la même rapidité. Elle vit une enfance entourée de femmes, le seul homme c'est son père. aimant et présent. Mais dis-nous, Françoise, comment c'est de découvrir pour la première fois les autres hommes à 20 ans ?
Donc j'avais vécu dans un environnement très féminin, et puis j'ai découvert, alors j'avais fait ma prépa, j'étais déjà à Sèvres, on m'a parlé de rencontrer des soviétiques à un bal de l'école des mines. Alors je me dis, ça je vais y aller. Donc j'ai découvert, c'était vraiment agréable de danser. Alors après, en gros, tous les week-ends, j'allais danser au moins un bal, quoi. Des fois, il y en avait samedi toute la nuit, et puis après le dimanche après-midi, mais c'était rare en général, c'était... Et alors, Sèvres, c'était Boulevard-Jourdan, et puis les bals, c'était souvent Quartier Latin, mais je rentrais aussi 6h du matin, là, au petit jour, sur la rue de la Tombissoire, toute contente d'avoir dansé, puis c'est pas le moment où on a envie de dormir, quand on a bien tapé les pieds. Un jour, une âge, je me rappelle même plus comment tout le monde s'est rencontré, c'était dans un cavalier, avec qui on a un peu sympathisé, un petit peu. Et puis, il serait bien allé un petit peu plus loin, alors, pour aller à mon époque, pour rester sérieuse, parce que sinon, ça se fait pas, on n'a rien avant le mariage, et tout. Et donc, c'est resté très, très, très sage, et puis ça n'a pas été très loin. Mais ça m'avait commencé à me faire penser au prince charmant quand même. C'est vrai que quand on a laissé de filles, on y pense moins, hein, c'est pas...
Vous en discutiez pas entre copines, des garçons ?
Non, pas tellement. Non, 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 c'était un autre monde. Et puis un jour, j'ai rencontré celui qui a été le père de mes enfants, et puis on est tombé amoureux. Alors lui, c'est pareil, j'étais pas la première, je veux dire, il sortait de 4 ans de vie qui sont terminés par un divorce. Sa mère s'était suicidée quand il lui avait annoncé qu'il allait se marier avec cette jeune femme. C'est pas un démarrage facile dans un couple, hein, le couple n'a pas tenu. Enfin, ça a vraiment compliqué beaucoup leur vie, et puis ça n'a pas facilité la nôtre de couple.
Et comment tu l'avais rencontré du coup ?
Alors c'était au bal. C'était au bal de l'école vétérinaire où le frère d'une de mes copines était étudiant. Et puis là, il y avait Yves, le père de mes enfants, et qui était venu, mais il était accompagné d'une Françoise déjà. Et puis après, j'ai appris qu'il avait regretté d'être avec une autre Françoise. Bref, la semaine d'après, quelque pas longtemps après en tout cas, il y avait un bal à Normal Sup. Et puis on a dansé. On s'était connus la semaine d'avant, connus comme ça, simplement en étant quatre autour d'une table avec les... Ah puis c'était bien, il valsait bien. Il aimait danser, moi aussi. Bref, le lendemain, on est allé ensemble avec des copains à Fontainebleau, sur les rochers, parce que c'était aussi une autre des activités qu'on partageait. Et voilà, et puis après on s'est revus assez souvent. Les deux bals où on a fait connaissance, ça devait être en mars, et puis ça devait être en juin. Et puis, 63. Puis après, je passais la grecque, j'étais bien occupée. Mais il y avait des hauts et des bas, parce que lui était quand même meurtri par le suicide de sa mère et tout ça, et il faisait insomnie. Et puis, moi j'y croyais, comme en 14, il m'avait regardé avec des yeux tendres, et puis ça allait tout bien marcher, on allait réparer ce qu'il avait vécu de traumatisant, et puis en même temps, je passais la grecque. Et alors, ma copine Claude, qui avait été là au début, on s'est rencontrés, disait, pourvu que ça dure jusqu'au 17, c'était le loi de mon oral, je crois, je répète ça quand je fais de mémoire, mais. C'était quand même préoccupant de savoir que lui, il avait des doutes, qu'il ne savait pas s'il allait s'engager et tout. Puis moi, j'étais bien accrochée quand même. Voilà, puis finalement, en février 64, on s'est mariés. C'était à mon époque, j'étais une fille sage de tous les côtés, j'étais bien bonne élève à l'école et tout. Et puis on se marie, c'est pas la peine de contrarier les gens en faisant des choses hors normes. Enfin, c'était un petit mariage. Hein. On était 13. C'est pas mon nom, peut-être, mais enfin bon. Il y a eu des gens qui ont pris une photo, on est sur une voie sans issue. ça a quand même duré 15 ans.
15 ans, t'es restée mariée avec cet homme-là ?
Oui.
Et c'était comment ?
Alors, il y avait des très bons côtés. On a dansé. On avait aussi la chorale. On était tous les deux amateurs de musique, on chantait. On aimait les rochers, on aimait les vacances voyageuses, on apprenait les langues, on avait plein de points communs.
Le projet d'enfant, comment c'est venu
Ça, c'est une très bonne question. Alors, le projet d'enfant, c'était évident, quand on se mariait, on avait des enfants. C'était transmettre, c'était normal. Hein.
Toi, tu en voulais, du coup ?
Ah oui, sans aucun doute. Quand la première est venue, on avait pourtant des moyens de contraception, mais il y avait raté, là. Et c'était un peu tôt, c'était un moment où on n'avait pas... Mais il s'est très, très vite, tout de suite, intéressé à elle. Enfin, ça a été un très bon père. Normalement, dans les familles de dans le temps, il y avait une flopée de gosses, et puis les aînés, ils savaient comment on faisait des bébés parce qu'ils avaient vu. Nous, c'était pas ça. Donc, on a un petit peu appris ensemble, et puis on a découvert qu'un petit paquet de couches en tissu, ça suffisait pas, parce que pour Hélène, c'était encore des couches en tissu. Mais on faisait ça ensemble, c'était super sympa. Je me découvre enceinte, on venait de décider de se séparer. C'est-à-dire, j'étais enceinte de 2 mois quand on s'en est rendu compte.
Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, lui, il ne se sentait pas père de cet enfant, on vient de décider de séparer. Moi, je me disais, bon, quand il a mangé pour trois, il a mangé pour quatre, mais c'est vrai que ça n'aurait pas été facile. Puis surtout, ce qui m'a arrêté, c'est que je ne voulais pas d'un gosse. Trois gosses qu'aurait eu un père et puis un gosse à côté qu'on n'aurait pas eu, ça me paraissait machin. Et je ne voulais pas non plus peser sur un papa involontaire. Alors, l'IVG en 1974, ce n'était pas encore au point en France, je suis allée en Angleterre. En France, ben non, le médecin m'a bien confirmé que j'étais enceinte, mais il ne pouvait pas faire quelque chose. Ben, la loi était en pourparler. Donc, on en parlait déjà beaucoup en 1974, mais ce n'était pas encore fait. Bon, ça paraît, j'avais la chance de pouvoir payer mon billet pour l'Angleterre, j'avais la chance de parler anglais, j'avais plein de chance encore. Et j'ai eu la chance par rapport à beaucoup de femmes que je connais autour de moi qui ont averti pour qui ça a été un traumatisme. Ça n'a pas été un traumatisme parce que j'étais claire dans ma décision que je prenais vraiment dans l'intérêt du bébé.
Et du coup, tu es quand même allée seule? Tu t'es pas sentie seule?
Oh, non, parce que c'était clair. Bon, déjà, j'étais seule, j'avais fait le geste de quitter mon mari. Donc ça, c'était ça. Par contre, c'était difficile. Là, j'avais des scrupules. Parce qu'un mari qui a déjà été quitté une fois, le quitter une deuxième, je ne l'ai fait que parce qu'il y avait les enfants. Je pense qu'il vaut mieux pour des enfants de vivre avec une mère qui est seule, mais et puis un père qui s'intéresse à eux, parce qu'ils continuent à s'intéresser à eux, séparés et coopérant bien, que de les voir vivre ensemble et puis mal vivre. Alors nos enfants, quand on leur a annoncé qu'on allait se séparer, ils ont vraiment eu peur d'être différents des autres. Puis ils se sont rendus compte, mais dès les premiers jours, quand ils ont commencé à en parler, bah, qu'il y avait plein de gosses qui disaient « Ah ben, tu dors chez ton père ou ta mère ce soir ?» Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins répandu que maintenant. On avait laissé les enfants libres de leur choix. On ne voulait pas, on était embêtés de leur imposer ce truc-là. Et on voulait qu'ils en bâtissent le moins possible. Donc on leur a dit, bah, vous allez chez papa ou chez maman comme vous avez envie. Alors il y avait des pyjamas dans les deux maisons. Il n'y avait qu'un dictionnaire grec qu'on n'avait pas en double, mais tout le reste, on l'avait en double. Et puis bah, on avait toujours au moins des pattes s'ils débarquaient sans qu'on les ait prévus. Enfin, ils avaient leurs habitudes quand même. Donc ça voulait dire qu'on n'avait pas vraiment des temps où on était juste pour nous. L'aînée, elle allait jusqu'à mercredi. Chez moi, je crois, ou le contraire, et de mercredi à samedi, chez son papa, ou le contraire. Bon, la deuxième, elle avait dit, ben non, moi, je ne peux pas me partager, c'est trop compliqué, elle reste chez papa. Et puis, quand papa est allé à Poitiers, elle est venue chez moi, parce qu'elle ne voulait pas quitter son environnement. Elle avait plein de temps, tout ça. Et puis, le troisième, lui, c'était le week-end chez papa, et la semaine chez maman. Voilà, c'était en rentrant de l'école, décider, je vais chez l'un ou je vais chez l'autre.
Françoise divorce à l'époque où peu de couples le font. Elle part faire une IVG à Londres parce qu'en France, la loi n'est pas passée. Et elle invente la garde partagée pour que ses enfants pâtissent le moins possible de ses choix. Françoise, c'est une sacrée femme.
J'ai vécu, bon, d'abord, soulagée de sortir d'une cage où c'était compliqué. Et puis, un jour, j'ai acheté un camping-car pour partir. Enfin, ce n'était pas le maxi-camping-car, mais c'était un truc où on pouvait mettre jusqu'à 7 ou 8 personnes, je ne sais plus, en tout. Plus les bagages. Alors, pour partir en vacances avec les enfants, les trois enfants, plus les copains-copines, ça tenait, un de six, en gros, s'ils amenaient chacun un copain-copine, plus les bagages. Allez, vous mettez les bagages, on y va. Et puis, en cherchant mon camping, on va acheter mon combi dans la centrale des particuliers. Ah, ils vendent aussi des mariages. Ah, bah tiens. Alors là, j'ai répondu à un certain nombre d'annonces. C'était passionnant. J'ai rencontré les gens. Et en fait, je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui ce serait mieux que de vivre ce que je vivais moi. Mais j'ai quand même réussi à passer des annonces. Bah, les enfants, ils se couchaient aussi un moment, quoi, puis ils avaient leurs occupations. Et puis j'ai rencontré des gens intéressants. Alors, j'avais un problème parce que des fois, ils me trouvaient intéressante. Et puis moi, je ne me sentais pas prête du tout aller avec eux pour des raisons variées. D'abord parce que je n'étais pas très disponible, en fait. Je n'avais pas vraiment de temps. Mais aussi parce que, bah non. Alors, j'avais beaucoup cherché comment le faire sans les blesser et puis sans me dévaloriser parce que c'est aussi un moyen de dire bah, ça, je ne suis pas celle qui vous convient, je suis nulle, nanana. Ce n'est pas bon pour le moral, ça. Donc, j'avais trouvé nous n'avons pas le même rythme. Puis ça, vous voyez mon rythme. Hein, bon, on peut comprendre. C'était dévalorisant pour personne. Bon, je suis comme ça, je n'étais pas tant que ça à l'époque quand même. Mais j'avais nous n'avons pas le même rythme. Bye bye.
Et ça ne te manquait pas, ça, de vivre avec quelqu'un?
J'y ai pensé, bah, quand j'ai passé ces petites annonces, ou répondu à ces petites annonces, parce que j'ai répondu d'abord, puis après j'en ai passé. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui je sente que la chose serait préférable à la vie que j'avais, avec la liberté que j'avais aussi. Et puis là, bon, bah, ça fait quand même depuis 79, ça fait quelques petites années que je suis habituée. Je crois que maintenant j'aurais du mal à dépendre. Enfin, pour l'instant, je fais plein de choses complètement dingues. et si je devais d'abord veiller à être assez souvent avec mon compagnon, ben, ça ne serait pas forcément aussi facile d'y loger tout ce que moi j'ai envie de mettre, parce que c'est plein, 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 ça déborde déjà comme ça. Et puis ensuite, je n'aurais pas envie qu'on me dise, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ça. Et bon, il y en a qui sont protecteurs, hein, surtout avec ce qui m'est arrivé. Ah oui, bon, je raconte ça un petit peu quand même, ça, ce n'était pas une chance. Je suis devenue électrosensible. Ce n'est pas un cadeau. Parce qu'il y a des moments, on peut, simplement parce qu'on était un petit peu trop près d'une Wi-Fi, d'un téléphone portable, perdre l'équilibre. Tout d'un coup, chute brutale. Il y a une des chutes qui a été plus réussie que les autres, qui a été définitive. C'était celle que je me suis faite le jour de mes 70 ans, en avril 2011, juste devant le train. J'étais à 3 mètres du train. Alors maintenant, mon genou, il ne veut pas plier plus qu'à 90 degrés.
Tu fais que dire que tu as eu de la chance ?
Oui.
C'est ce dont tu as l'impression ?
C'est ça que je voulais souligner, là, oui.
Tu as l'impression que ta vie, tu as eu de la chance tout le temps ?
J'ai pas eu que ça. Il y a eu des moments difficiles aussi, puis j'ai affronté, j'ai fait face. Je me souviens des capacités de rebondir que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai eu beaucoup de chance, effectivement. J'ai eu des parents qui m'ont aimé, même si c'était pendant la guerre, ils se sont débrouillés pour que je n'en bâtisse pas. Des parents qui m'ont donné beaucoup de choses, parce que ce qui me passionne en ce moment, le Dohin par exemple, l'automassage des poings, c'était un peu la combinaison de ce que ma mère faisait avec ses séances d'acupuncture, et puis elle nous a soignés comme ça quand on était petite. Et puis mon père avec le yoga, c'était la combinaison des deux. Et puis les langues et les maths, j'ai aussi la chance de recevoir tout ça dans mon berceau. J'ai eu beaucoup de chance. Puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui je n'ai pas finalement choisi de finir ma vie, mais ça s'est passé vraiment le mieux qu'on pouvait. On a gardé une estime réciproque, je suis allée à ses obsèques. Il n'y a pas que de la chance. Mais il y a quand même la capacité de rebondir, et ça, j'ai toujours l'impression que comme les chats, j'allais retomber sur mes pattes. Notre mère qui a eu ses côtés pas toujours faciles, et à un moment, juste avant la fin, quelques jours avant, je crois, elle dit, on a eu une belle fille. J'ai aimé cette conclusion.
T'as l'impression d'avoir eu une belle vie ?
Moi aussi, oui. Et c'est vrai que ma mort, bon, je ne suis pas pressée. Oui, il y a plein de choses qui me passionnent. Moi, je suis vraiment contente d'être avec vous. Puis il y a d'autres choses dans ma vie qui me passionnent. Mais si ça arrive demain, je considère que j'ai bien rempli mon ticket. Rentabilisé mon ticket d'entrée. Quand j'allais au bal, il y a des fois où, à la fin de la nuit, j'étais contente d'aller me coucher quand même. Et là, je me dis ça comme ça. J'ai bien lancé. Je ne suis pas pressée d'aller me coucher, mais si ça vient, ça sera bien aussi.
Grâce à Françoise, nous avons compris que la chance n'était pas un hasard, mais bel et bien une philosophie de vie. Et si tu n'en as pas, provoque-la.
Je passe mon temps à dire j'ai eu de la chance.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter. Surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.